Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, il nous faut méditer, évidemment, pendant tout ce temps liturgique dans la crèche, le maître, avec au choix les anges, les bergers, les rois mages, devant la crèche, considérer cet enfant nouveau-né enveloppé de l'ange, qui dépend, humainement parlant, totalement de sa mère, son Père putatif, et qui est pourtant le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, Créateur du ciel et Rédempteur des hommes. Alors on a le choix, soit on peut se joindre à la troupe des anges, enfin peut-être que nous aurons un peu quelques difficultés, parce qu'il y a une telle différence de dignité entre les anges et nous, que nous hésiterons peut-être avec un peu de honte, à nous enjoindre à des purs esprits. Peut-être que nous aurons un petit peu de gêne aussi à nous présenté avec les rois mages, les grands rois, les grands mages. On sera un petit peu évidemment gêné d'être avec des gens aussi glorieux. Alors par contre, avec les bergers, là, on sent plus à l'aise. Des gens tout simples. Nous sommes plus à leur niveau. Alors nous allons nous présenter à la Très Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à l'enfant Jésus, avec les anges, avec, je veux dire, les bergers. Un petit peu vous en parler dans ce sermon. Les pères de l'Église disent plusieurs choses sur ces visites. Il faut remarquer d'abord qu'il faut se placer entre le bœuf et l'âne. Et j'ai trouvé des textes d'un père de l'Église, je ne sais plus lequel, qui donne la signification mystique du bœuf et de l'âne. C'est un peu spécial. Il dit que le bœuf représente le peuple juif et l'âne représente le peuple des gentils. Alors, je ne sais pas quel est le mieux achalandé entre le bœuf et l'âne. Et nous, on se met au milieu. Alors, on se met entre le bœuf et l'âne, parce qu'on est entre, si vous voulez, entre le peuple juif, le peuple de l'Ancien Testament, et on arrive au Nouveau Testament, donc les catholiques viennent se placer, et entre le peuple des juifs, qui était le peuple élu de l'Ancien Testament, et représente maintenant, ces gentils représentent le peuple élu du Nouveau Testament, le peuple des catholiques. Il faut lire, je conseille beaucoup à ceux qui ont un peu de temps, de lire les récits de Mgr Gaume, surtout dans ses biographies évangéliques qui sont splendides. Il parle un petit peu historiquement des bergers. Mgr Gaume est un auteur très sûr. Ils disent que d'après la tradition de l'Église, ces bergers étaient au nombre de trois. Il y avait Saint Isaac, Saint Jacob et Saint Joseph. Et les pères pense que ces trois bergers étaient le symbole des trois groupes d'hommes qui sont partis sur la surface de la terre après le déluge. Lorsque l'arche s'est arrêtée au sommet du mont Ararat, Turquie actuelle, donc Noé a offert un sacrifice et ses trois enfants, Sem, Cam et Japhet, dans leur descendance, se sont répandus dans le monde habité de l'époque. Et donc ça a commencé à faire les trois premiers groupes humains, et justement ces trois bergers représentent les trois groupes d'humains pour bien nous montrer que nous devons tous être au pied de la crèche. Et d'autres pères prétendent qu'il y avait parmi ces trois bergers, il y avait un vieillard, un adolescent et un homme d'âge mûr. Pour bien montrer que non seulement toutes les races humaines doivent être présentes à la crèche, mais qu'en même temps, avec cela, il faut que toutes les genres de personnes, toutes les classes de gens soient là. Pas simplement les jeunes, mais aussi les adultes, mais aussi les personnes âgées. Et donc ces bergers à la crèche nous représentent tous. Il faut souvent prier ces bergers. On a un peu perdu la dévotion aux bergers, ils sont canonisés par l'Église. On ne sait pas grand-chose sur leur vie. Vraisemblablement, ils sont morts martyrs. Et c'est la mère de Constantin, Sainte Hélène, qui au début du IVe siècle a fait construire en leur honneur à Jérusalem une belle église en l'honneur justement de ces trois rois, de ces trois bergers. L'histoire dit que l'église est assez rapidement, au cours des siècles, avec le temps, elle est tombée un petit peu en ruine. Et en 960, c'est Mgr Gaume qui révèle ça, en 960, les corps des trois bergers ont été transportés en Espagne, parce que leur église tombait en ruine. Et donc, ils ont été transportés en Espagne, à Salamanque, où leurs corps sont toujours pieusement conservés dans la ville de Salamanque. Alors, il nous faut justement, nous aussi, être avec les bergers. Et un point important, Monseigneur Gaume dit que après la visite des bergers, donc ils sont venus visiter la Sainte Famille, et ils ont très vite compris que la Sainte Famille risquait d'être persécutée, notamment par les autorités politiques. Eh bien, les bergers sont à ce moment-là restés, ils ont déplacé leur troupeau pour rester autour de la grotte, pour protéger la Sainte Famille pendant tout leur temps de séjour à Bethléem. J'ai trouvé ça très beau parce que c'est un petit peu ce qu'il faut que nous fassions nous aussi. Je vous expliquais au jour de Noël que notre âme est comme une crèche. Dans cette crèche vit notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la Sainte Vierge qui est pas loin, Saint Joseph non plus, aussi, donc ils sont tous les trois là. Au moins notre Seigneur Jésus-Christ, de façon substantielle, même par la Sainte Communion. Donc notre âme devient une crèche qui abrite notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il faut que nous protégions notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas simplement de le mettre dans notre âme, puis après le laisser s'ennuyer tout seul. Non, il faut venir l'adorer, il faut venir le vénérer, venir tenir en quelque sorte compagnie et surtout venir le protéger. Le rôle d'un chrétien, c'est de protéger son âme des attaques des ennemis. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui comparait l'âme à un château fort. Un château fort devient vite la proie des ennemis qui vont chercher à investir le château. Et donc, il faut protéger avec les murs d'enceinte, avec les soldats qui sont sous le mur d'enceinte, protéger ce château pour empêcher justement les gens de l'extérieur de venir assaillir le château. Et donc il va y avoir les ennemis, et les ennemis, c'est d'abord le démon qui évidemment va tout faire pour assaillir le château. Pourquoi pour assaillir le château? Il va assaillir le château parce que il ne veut pas que notre Seigneur Jésus-Christ reste dans ce château. Il sait très bien que tant que notre Seigneur Jésus-Christ sera dans le donjon du château, eh bien le démon peut rien faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer d'abord par s'arranger pour que notre Seigneur Jésus-Christ ne puisse plus rester dans le château. Et la meilleure façon pour obtenir ce résultat, c'est de pousser la personne qui est propriétaire du château, à savoir l'âme en question, commettre une faute grave. Et évidemment, spontanément, dès qu'une âme commet le péché, tout de suite, le bon Dieu est obligé de s'en aller. On n'a même pas, si vous voulez, à le mettre nous-mêmes dehors, ipso facto, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a une telle horreur du péché qu'il ne peut pas rester dans une âme qui est consommée par le péché. Et donc, il faut prier. Les saints bergers, Saint Isaac, Saint Joseph, Saint Jacob, donc prier ces saints bergers pour que justement ils nous donnent, nous aussi, cette force de venir protéger notre âme, protéger ce trésor extraordinaire. Une autre comparaison qu'on rencontre parfois aussi chez d'autres saints ou d'autres docteurs de l'Église, qui explique qu'on peut comparer aussi notre âme, pas simplement à un château, mais aussi à un bateau qui part du port de cette terre et qui doit aller au ciel, traverser l'océan, avec tous les dangers de l'océan, les tempêtes, les récifs, les requins, les pirates, etc. Et dans la cale de notre bateau, on a un trésor extraordinaire qui est la grâce du bon Dieu. Et donc, les pirates vont chercher à prendre possession du bateau, et dès qu'ils prennent possession du bateau, qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils jettent à la mer le trésor pour que du coup le bateau ne puisse plus livrer sa cargaison à bon port, c'est-à-dire au paradis. Donc il nous faut vraiment comprendre ces choses-là. Le chrétien est un combattant, le chrétien est un soldat qui a pour but de protéger le trésor que le bon Dieu a mis en notre âme le jour de notre baptême. On ne réalise pas ce que c'est que le trésor de la grâce sanctifiante, de la charité qui est donnée par Dieu le jour de notre baptême. Hier, j'ai eu la grande joie de pouvoir baptiser une adulte avant de faire son mariage ici à l'oratoire d'Anne-Marie à Poitiers, une Chinoise donc de Pékin qui était venue avec celui qui est devenu son mari. Et je l'ai baptisé, j'ai insisté là-dessus au sermon. Et donc j'ai confessé d'abord le futur époux, parce que lui était catholique et donc il vient de se confesser avant le mariage. Mais je lui expliquais, elle n'a pas besoin de se confesser, parce que le baptême, justement, j'expliquais, le baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire, encore plus pour un adulte, parce que quand on baptise un bébé, on enlève le péché originel, c'est tout. C'est-à-dire, quand on baptise un adulte, non seulement le péché originel saute, mais tous les péchés de la vie. Tous les péchés de la vie. Et plus que ça, le baptême non seulement efface tous les péchés, péché originel et péché actuel, mais en plus efface toutes les peines temporelles du péché. Il efface les peines du purgatoire. C'est pour ça que c'était une erreur, mais c'était une coutume des anciens, au début de l'histoire de l'Église, beaucoup de gens avaient tendance à différer le baptême le plus tard possible. Et littéralement d'être baptisé que juste avant leur mort, parce qu'ils disaient comme ça en même temps, ben, j'éviterai toutes les peines du purgatoire. Bon, c'est un jeu un peu dangereux, parce que c'est la meilleure façon ben, de mourir un peu trop tôt et de ne pas avoir le temps d'être baptisé. Donc l'Église, avec sagesse, avec raison, justement demande le baptême dès le plus jeune âge, dès la sortie du sein maternel. Donc il faut, je crois, bien comprendre ces choses-là et les méditer avec avec grand soin. Pardon. Un autre point qui me semble important, cette fois-ci, pas simplement sur les bergers, mais on remarque que l'Église, après ce sommet que représente la fête de Noël, une des fêtes les plus importantes de l'année, l'Église a voulu placer, juste après la fête de Noël, la fête de certains des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Donc le 26 décembre, il y avait Saint-Étienne, premier martyr, le 27 Saint-Jean, l'apôtre Saint-Jean, et le 28, les saints innocents. Justement pour nous pousser à utiliser l'intercession de ces grands saints pour demander d'autres grâces, pour compléter en quelque sorte les grâces que nous donne le bon Dieu déjà par sa présence dans notre âme, dans notre cœur le jour de Noël. Et avec la fête de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le premier des martyrs. Premier martyr, donc il va être lapidé par les Juifs. Et Saint-Étienne a demandé le pardon de ce péché épouvantable des Juifs qui l'ont tué. Donc au moment où il était lapidé, il a demandé au bon Dieu de pardonner, de ne pas garder ce péché sur la conscience des Juifs, et de pardonner les offenses de ces Juifs qui le lapidaient. Et Saint-Étienne est donc invoqué pour demander, à vertu de charité, le pardon des offenses, qui n'est pas quelque chose de facile à obtenir. On le demande tous les jours lorsque nous prions, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'a fait Saint-Étienne. Le lendemain, c'est Saint-Jean. Saint-Jean aussi a une carte de visite incroyable. Il était à la fois apôtre, évangéliste, prophète, martyr. Bien qu'il soit mort dans son lit, il est quand même considéré comme martyr parce que à Rome, les Juifs ont essayé de tuer Saint-Jean. À la porte latine, ils ont réussi à le prendre alors qu'il était en train de célébrer la messe. C'était un évêque donc. Et ils ont jeté tous les vêtements épiscopaux. Ils l'ont jeté dans un énorme chaudron d'huile bouillante. Et l'histoire nous dit que il n'est pas mort. Et donc, il a quand même la gloire du martyr dans le sens que ils ont essayé de le tuer, ceux qui ont souffert les difficultés du martyr, même s'ils ne sont pas morts, sont considérés dans l'Église catholique comme des martyrs. Et l'Église dit même que lorsque les Juifs écœurés l'ont sorti de ce chaudron, avant de l'envoyer en exil, eh bien, il avait rajeuni. Non seulement il n'a pas brûlé, il n'a pas grillé, mais en plus il avait rajeuni. Et il est aussi prophète. Saint Jean est aussi un prophète parce qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, de la Sainte Bible, qui est un livre de prophétie, donc qui regarde l'avenir de l'Église, un livre mystérieux, difficile à comprendre, comme toutes ces prophéties. La plupart de ces prophéties, on les comprend une fois qu'elles sont réalisées, mais très, très, très difficilement avant. Donc, attention, rappelons-nous ce point de doctrine essentiel que le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique, donc qui regarde le futur et pas le passé de l'Église, comme le prétendent certains qui ont mal lu le début du livre de l'Apocalypse. Et enfin, le 28 décembre, c'est la fête des saints innocents. Encore un grand mystère, ces innocents sont martyrs. Alors qu'on pouvait considérer que, puisque ces enfants venaient de naître, ils n'avaient pas encore l'âge de raison, eh bien l'Église enseigne que bon Dieu a donné aux saints innocents une grâce miraculeuse par laquelle ils ont eu en avance l'usage de leur raison. Et Dieu leur a accordé non seulement l'usage de la raison alors qu'ils avaient moins de 2 ans, donc ils n'avaient pas encore physiquement parlant l'âge de raison, Dieu leur a accordé l'âge de raison et ils ont consenti à leur mort pour le Christ, donc ils sont martyrs. Donc là, il faut demander l'esprit de pénitence. Donc vous voyez, c'est tous ces saints ont leur rôle. Donc Saint-Étienne, c'est la vertu de charité, le pardon des offenses. Saint-Jean, j'ai oublié de vous le dire, Saint-Jean avait un titre extraordinaire, qui est difficilement même compréhensible. Lui-même se donne ce titre à plusieurs reprises dans son évangile, l'apôtre que Jésus aimait. C'est énorme, comme frère. Ça pourrait presque laisser entendre que notre Seigneur n'aimait pas les autres apôtres. Et qu'il y en avait un qu'il aimait, c'était Saint Jean. Mais ce qui est vrai, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, aimait tous les apôtres, mais avait un amour de prédilection pour Saint Jean. Un amour de prédilection pour Saint Jean. Pourquoi? À cause de la chasteté de Saint Jean. Parce que Saint Jean était le seul des apôtres qui n'avait jamais été marié. Tous les autres apôtres étaient mariés, sauf Saint Jean. Alors il faut demander, évidemment, par l'intermédiaire de Saint Jean, demander la grâce de la pureté. La grâce de la pureté, pureté de l'âme, la grâce de la chasteté. Celui qui est chaste, disent les pères de l'Église, est fort comme une armée rangée en bataille. Parce que castitas, d'après certaines étymologies, castitas viendrait du mot castra, castrorum, en latin, c'est le camp militaire fortifié. Donc une âme qui est chaste, une âme qui garde la vertu de pureté, comme un château fort, encore une fois, protégé contre le démon. Dernier point qui me semble important, sur lequel je voudrais dire quelques mots au cours de ce sermon, c'est l'évangile d'aujourd'hui, hein, qui va être pris plusieurs fois dans ce temps de Noël. C'est l'évangile très connu donc de l'attente de Saint Siméon au temple de Jérusalem. Ce vieillard à qui il avait été révélé mystérieusement, miraculeusement, il avait eu une apparition qui lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir touché Créateur du monde, d'avoir touché le Messie. Et il attendait avec la prophétesse Anne, une vieille femme qui attendait aussi l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque notre Sainte Vierge Marie s'est présentée au temple de Jérusalem avec l'enfant, avec son mari, son épouse, Saint Joseph, eh bien le Saint-Esprit leur révélait, cet enfant c'est lui, c'est le Messie. Et il est allé prendre l'enfant, il a fait cette prophétie dont j'ai souvent parlé, mais qui est tellement importante pour nous, qui est la clé de compréhension bien des choses. Cet enfant sera un signe de contradiction pour l'armée ou la résurrection de beaucoup en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas être neutre. Ou on l'utilise pour notre résurrection, pour monter vers le ciel, ou on le refuse. Et à ce moment-là, on l'utilisera pour notre condamnation, en le refusant, en tombant en enfer parce qu'on a refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Un signe de contradiction, pourquoi? Parce qu'il est l'unique vrai Dieu, parce que son Église est l'unique véritable Église, et parce que le démon ne peut pas supporter une âme en état de grâce. Et donc cela explique et nous aide à comprendre pourquoi un catholique, c'est un combattant, c'est un soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on est combattant la vie spirituelle. C'est un combat spirituel qui ne cessera que le jour de notre mort. Et Siméon va rajouter cette prophétie à l'égard de notre Sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera l'âme, Notre-Dame des Saintes Douleurs. Pour bien montrer, bien rappeler à très Sainte Vierge Marie pourquoi les mères de Dieu. Pourquoi les mères de Dieu? Les mères de Dieu parce que elle va donner à la deuxième personne de la Sainte Trinité un corps humain pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas mourir en tant qu'homme tranquillement dans son lit, il va mourir crucifié pour nos péchés. Et donc la très Sainte Vierge Marie va recevoir ce message, un glaive de douleur vous transpercera l'âme, et c'est cette phrase essentielle de l'Évangile qui nous rappelle un des privilèges douloureux de notre Sainte Vierge Marie, elle est co-rédemptrice du genre humain. Ça, il faut le rappeler aujourd'hui plus que jamais, alors que Bergoglio a rajouté à sa longue liste de blasphèmes un de plus en niant justement le jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, le 12 décembre dernier, qu'il a nié à Rome la co-rédemption de notre Sainte Vierge Marie. Bien, justement, précisément à cause de cette phrase, Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Elle est co-rédemptrice parce qu'elle est mère de Dieu. Elle est mère, c'est elle qui a donné l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, elle va participer à cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et c'est pour ça qu'elle est co-rédemptrice et médiatrice du jour humain. C'est une petite règle de conduite que j'ai toujours suivie. Pour savoir quels sont les points de doctrine qu'il faut les plus protéger, il suffit de voir quels sont les points de doctrine qui sont les plus attaqués par nos ennemis. Le plus grand ennemi de l'Église catholique, c'est Bergoglio. Il faut voir donc les points qu'il attaque, et ce sont ces points-là surtout qu'il faut défendre. Et comme il a attaqué une fois plus la doctrine catholique en niant la co-rédemption entre Seigneur Jésus-Marie, il faut donc insister sur cette co-rédemption. Elle est médiatrice de toutes les grâces, les deux dogmes sont les deux choses sont liées, la médiation entre Seigneur Jésus-Marie et la co-rédemption. Parce que elle nous amène en quelque sorte à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle de notre Sainte Vierge Marie, c'est de nous prendre par la main et nous amener au calvaire, au sommet du calvaire. C'est ce qu'elle va faire avec Saint Jean. Et ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant de mourir, va nous la donner comme mère. Il va dire à Saint Jean, Mère, fils, voici votre mère. Et à notre Sainte Vierge Marie, Mère, voici votre fils. Et ce Saint Jean, qui vient d'être ordonné prêtre, qui vient d'être consacré évêque quelques heures auparavant, représente l'Église catholique. Donc la Sainte Vierge Marie est mère de l'Église. Et c'est précisément parce qu'elle est mère de l'Église, eh bien, elle est co-rédemptrice du jour humain, parce qu'elle est mère du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ et de son corps physique, les deux. Elle est mère du corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est celle qui a donné l'humanité à notre Seigneur. Elle est mère du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle est mère de l'Église catholique. En demandant à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à nous faire tout petits. À la crèche de Bethléem, les gens orgueilleux sont incapables de méditer Noël. C'est pas pour rien, encore une fois, que dans le monde moderne, la fête de Noël était complètement dilapidée. Et ça devient la fête des cadeaux, tout ce qui reste. Mais la fête de Noël, c'est la fête de la miséricorde, notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, ce que j'expliquais le jour de Noël, pour pouvoir utiliser cette miséricorde, il faut savoir s'abaisser. C'est pour ça que la première vertu est absolument nécessaire pour s'approcher de la crèche, c'est la vertu d'humilité. Pas d'humilité, on ne peut pas rentrer dans la crèche. Si on a l'humilité, Seigneur, je ne suis pas digne que vous rentriez dans mon âme, et dites seulement une parole, et mon âme sera guérie, c'est ce qu'on dira trois fois avant de communier. Et bien, si on a l'humilité, on peut se mettre à genoux, et à ce moment-là, méditer l'humilité, méditer la charité, méditer la sagesse extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se fait tout petit pour nous, pour se préparer à mourir pour nous. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous protéger et de maintenir en nous cette foi, cette espérance, cette charité sans lesquelles on ne peut pas être sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.